Christian Labouis, guet-apens mortel pour le PDG. Narration, Florent Houllier. Le Noël 2004 de la famille Labouis n'a rien de festif. Ce 23 décembre, l'entrepreneur Christian Labouis est sauvagement assassiné dans sa voiture. Son visage et son corps sont criblés de balles de deux calibres différents. Les premières proviennent d'un fusil de calibre 12, les autres d'un pistolet automatique 11-43. Les enquêteurs privilégient la thèse d'un assassinat commandité. On pense d'abord à l'acte d'un commando de tueur expérimenté. Finalement, cette affaire criminelle se conclut avec l'arrestation d'un seul coupable. Voici l'histoire improbable et mystérieuse de la mort de ce chef d'entreprise, médaillé de la Légion d'honneur et ami des stars. Nous sommes le 23 décembre 2004. Geneviève Labouis, la fille cadette de Christian, issue d'un second mariage, rentre chez ses parents pour passer les fêtes de Noël. Le portail de la maison familiale s'ouvre à l'arrivée de sa voiture. Au bout de quelques mètres, elle doit s'arrêter, surprise par la présence de la voiture de son père en plein milieu de l'allée. Les phares sont encore allumés, mais depuis son véhicule, elle n'aperçoit personne à l'intérieur. Il fait déjà nuit noire. Geneviève descend. En s'approchant de la voiture de son père, elle aperçoit un corps face contre terre. Son père, méconnaissable, le visage défiguré par les balles. Les gendarmes de Villefranche de Lauragais sont immédiatement prévenus. L'enquête criminelle démarre aussitôt dans la soirée. Les gendarmes de la section de recherche de Toulouse, habitués des scènes de crime, arrivent également en renfort. Les premiers constats révèlent que Christian Labouis a été exécuté de plusieurs balles. Une balle de calibre 12 a été tirée à bout portant en plein visage, tandis qu'une autre a atteint son pied. Le coup de feu était si puissant qu'il a expulsé la chaussure de sécurité que la victime portait, la projetant plusieurs mètres plus loin. En examinant la voiture, les gendarmes ont également découvert d'autres balles, cette fois-ci provenant d'un pistolet automatique de calibre 11-43. Près du corps, un gant noir est également retrouvé. Il est envoyé au laboratoire pour une analyse ADN. Les résultats ne révèlent aucun suspect inscrit dans les fichiers d'empreintes génétiques. Le jour suivant, les gendarmes fouillent la maison de la victime. Il découvre trois armes, dont une dissimulée sous un fauteuil dans le salon. Christian Labouis, la victime, étant à la tête d'une entreprise de sécurité, les enquêteurs ne sont pas surpris que l'homme prenne ses précautions en termes de sécurité personnelle. Cependant, ces constatations soulèvent également des questions autour de la vie personnelle de l'entrepreneur. Christian Labouis est à l'époque une personnalité bien connue de la région toulousaine. Il a été pendant un temps très investi au sein des corps d'élite de l'armée française. D'abord sous-officier chez les parachutistes, il exerce à partir de 1961 la profession de moniteur au Centre national d'entraînement des commandos à Collioure et à Mont-Louis pendant plus de 10 ans. Il démissionne de l'armée de terre après qu'on lui a proposé une mutation à Fontainebleau, en région parisienne. Lui ne voulait pas quitter sa région Midi-Pyrénées, à laquelle il était très attaché. Pendant cette période, on ne lui voit aucun ennemi en particulier. Les choses se compliquent au cours de sa nouvelle carrière. En 1983, Christian crée sa propre société de sécurité. Cette activité l'amène à faire régulièrement des voyages dans les pays de l'Est, dont l'Ukraine, pour du recrutement. Christian Labouis a une double activité, celle d'entrepreneur, mais également celle du formateur qu'il n'a jamais cessé d'être. À la même période, il devient conseiller militaire au service de la France dans une ambassade en Afrique. On dit qu'il menait des missions de renseignement et d'assistance pour les services secrets. Mais les enquêteurs ne trouvent aucune preuve concrète sur le contenu de ces missions. En revanche, Christian Labouis continuait ses activités de formateur auprès des soldats de différentes gardes présidentielles. Finalement, la thèse de l'exécution pour des raisons militaires est abandonnée après une investigation plus poussée sur les lieux du crime. Ce qu'on pensait être un travail de professionnel ne l'est pas vraiment. Des douilles non percutées ont été découvertes. Elles démontrent l'amateurisme des tireurs. De plus, il n'a jamais été observé par le passé l'utilisation d'un fusil de chasse, le fameux calibre 12, pour éliminer la cible d'un assassinat commandité. Un tueur à gages professionnel n'utiliserait pas ce type d'arme pour remplir un contrat. Enfin, la présence d'un gant est une faute élémentaire qu'aucun tueur professionnel ne pourrait se permettre. Pour ces trois principales raisons, la piste d'un commando de tueurs agissant pour des motifs liés à l'entreprise de Christian Labouisse, son passé militaire, ou ses relations avec l'armée ou les services secrets, ne paraît pas crédible pour les gendarmes. La fermeture de cette piste mène à l'ouverture d'une nouvelle, celle d'un employé, d'un collaborateur, voire d'un rival de sa société de sécurité privée, Kevlar. Au moment de son meurtre, son entreprise est florissante, l'une des sociétés de sécurité les plus importantes du Sud-Ouest. Mais la concurrence fait rage dans ce secteur, et le succès de ce nouveau venu sur le marché disputé de la protection ne fait pas que des heureux, et les jalousies professionnelles sont vives. Dans les années 2000, à Toulouse, les sociétés de surveillance se sont multipliées. Le marché est en forte croissance et la guerre des prix fait rage. Les agents de sécurité ont de nombreuses fois revendiqué de meilleures conditions de salaire. L'augmentation de la délinquance, d'un sentiment d'insécurité et l'atmosphère tendue au niveau de la menace terroriste suite aux attentats du 11 septembre 2001 a contribué à faire grandir et croître fortement de nouvelles sociétés. Mais à côté de la société Kevlar, certains concurrents ne parviennent pas à faire le poids. Avant sa mort, Christian Labouisse est considéré comme un acteur significatif dans le domaine de la sécurité, avec plus de 250 employés à son service. L'idée de Christian Labouisse est aussi de fédérer toutes les sociétés de sécurité autour d'une charte qualité, et cela n'a pas plu à tous les chefs d'entreprise du secteur. La concurrence exacerbée pourrait-elle être le mobile d'un tel crime? Ou bien cette exécution sera le fruit de la rancœur d'un salarié de Kevlar? L'enquête de la gendarmerie au sein de la société ne donne rien. Labouisse était considéré comme un patron exigeant, mais n'était pas du tout détesté. Nombre de ses collaborateurs font des louanges au sujet de son travail, de son implication, de son professionnalisme. Christian tenait toujours à être le plus juste possible, au point de dénoncer à l'URSSAF certaines sociétés de sécurité concurrentes qui pratiquaient le travail au noir. Après un gros travail de vérification, des enquêteurs referment la piste professionnelle pour se concentrer sur son entourage familial. Le rapport d'autopsie, datant du 29 décembre, a confirmé les premières analyses faites sur le terrain. L'entrepreneur a été assassiné par balles avec deux calibres différents. Il n'y a eu aucune trace de lutte. Les tireurs lui ont d'abord tiré dessus à distance, avant de l'achever à bout portant. À moins que ce ne soit l'œuvre d'un seul tireur, qui aurait utilisé deux armes différentes. L'enterrement de Christian Labouisse a lieu le 4 janvier 2005. Les gendarmes sont répartis aux quatre coins de l'église de Nayou. La famille de la victime côtoie des militaires, anciens frères d'armes, des amis, des employés de sa société et quelques personnalités du monde du spectacle, comme Michel Jonas. Autour du cercueil sont rassemblées Monique Labouisse, l'épouse, sa fille Geneviève, mais également Patricia. Elle est la demi-sœur de Geneviève, issue d'un premier mariage. Une nouvelle hypothèse est émise, celle d'un règlement de compte familial. L'enquête sur l'entourage proche de la victime amène les gendarmes à d'intéressantes découvertes. Au lendemain du meurtre, une première investigation avait permis d'apprendre que Christian Labouisse avait eu une maîtresse mais que la relation s'était bien terminée. Ils avaient eu une fille ensemble, nommée Priscilla. L'entrepreneur l'avait officiellement reconnue. Les enquêteurs se désintéressent rapidement de cette piste pour se concentrer sur la première fille de l'entrepreneur. Patricia, la fille aînée de Christian, est née en 1963, et elle perd sa mère très jeune. La première femme du dirigeant de la société Kevlar décède brutalement dans un accident de voiture en 1972 alors que sa fille a 9 ans, dans les vignes aux alentours de Collioure, dans les Pyrénées-Orientales. Cette tragédie a profondément marqué Patricia Labouisse. Elle souffre de nombreuses carences affectives et aurait toutes les raisons d'en vouloir à son père. Christian a délaissé son devoir familial au profit de sa carrière militaire. Père et fille ne se voient presque pas, à cause des affectations et des différentes missions. Patricia est confiée à une tante, qui elle aussi la met de côté et la délaisse. Une fois majeure, Patricia tente de renouer avec son père en rejoignant l'armée, mais très vite elle craque et démissionne. Elle est psychologiquement très affaiblie. Sa vie est jalonnée de mauvaises rencontres, des compagnons qui pourraient faire figure de suspects parfaits dans cette affaire de crime. Les enquêteurs de Toulouse souhaitent convoquer Patricia, âgée de 40 ans au moment de l'enquête. C'est impossible. Elle ne peut pas se présenter dans leur bureau. Pour la voir, il faut se déplacer à l'hôtel psychiatrique, où elle passe un long séjour pour soigner une dépression sévère. Patricia porte sur elle les stigmates d'un passé difficile. Quand les gendarmes lui demandent ce qu'elle sait sur le meurtre de son père, elle parle d'un compagnon qui a fait de la prison pour meurtre. La piste est intéressante, mais rapidement abandonnée. L'homme en question a un alibi solide. Un autre profil se dégage, celui d'un ancien compagnon, surnommé Pompon, réputé pour son caractère violent. Plus tard, à l'occasion d'une enquête parallèle pour vol, les enquêteurs apprendront sa véritable identité, Christian de Liespostie. Patricia et son ami Christian ont vécu quelque temps ensemble et ont tenu pendant quelques mois un bar-restaurant à Toulouse. Un jour, au cours d'une dispute, l'homme a frappé Patricia très violemment, envoyant sa compagne à l'hôpital. L'événement est parvenu jusqu'aux oreilles de Christian Labouisse. L'ancien militaire lui a envoyé des agents de sécurité pour lui infliger une sévère correction. Le pompon en question est entendu par les gendarmes, mais lui aussi a un très bon alibi. Le 23 décembre, il a été vu à Grenoble par plusieurs témoins.